Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Au Liban, les élections législatives marquées par une forte abstention, 41% des électeurs seulement ont participé à ce scrutin. Un nouveau président en Somalie, Hassan Cheikh Mohamadou, déjà élu une première fois en 2012. Le Maroc a accueilli la semaine dernière une réunion de la coalition contre Daesh, entretien avec David Rigoulet-Roz, chercheur associé à l'IRIS. En Algérie, un ancien responsable militaire a été condamné à mort. Enfin, la cinquième journée internationale du vivre ensemble en paix. Les scouts musulmans de France participent à cette journée à la Grande Mosquée de Paris. Entretien avec le président de l'association Abdelhak Sali. Le Liban, dans l'attente des résultats des élections législatives organisées hier, l'abstention a été forte. Le ministère libanais de l'Intérieur a annoncé une participation de 41% seulement après la fermeture des bureaux de vote. 3,9 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour renouveler les 128 membres du Parlement libanais. Un important dispositif de sécurité a été déployé hier pour le scrutin, mais plusieurs incidents ont été signalés dans plusieurs régions. En Somalie, Hassan Cheikh Mohamoud, élu président de la République, chef de l'État une première fois entre 2012 et 2017, il s'est imposé face au président sortant, Mohamed Abdoulaye Mohamed, une élection qui intervient alors que la Somalie est confrontée à la sécheresse et au risque de famine. Parmi les défis du président nouvellement élu, le rétablissement de la sécurité. Ces derniers mois, les Chebabs ont mené plusieurs attaques meurtrières. Le Mali se retire de l'organisation régionale G5 Sahel. Bamako proteste contre le refus d'autres pays de le laisser présider, l'organisation chargée notamment de la lutte contre le djihadisme. Cette décision intervient alors que le Mali a mis fin il y a quelques mois au traité de coopération de 2014 avec la France. Gros plan sur la lutte contre Daesh. Le Maroc a accueilli la semaine dernière une réunion de la coalition contre l'État islamique, une réunion pour coordonner et poursuivre l'engagement international contre la menace croissante de l'organisation terroriste. Nous y revenons avec David Rigoulet-Roz, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
C'était la 9e réunion de ce type, hein, concernant la coalition anti-Daesh, qui regroupe plus de 80 pays et entités engagés justement contre l'organisation de l'État islamique. Le fait qu'elle ait eu lieu au Maroc est en soi intéressant, parce que ça veut dire que c'est la première fois que c'est africo-centré d'une certaine manière. D'ailleurs, on peut noter qu'en décembre 21, le Maroc s'est trouvé co-présider le groupe de travail sur l'Afrique justement contre Daesh, l'Africa Focus Group. Alors pourquoi l'Afrique? Probablement aussi parce que aujourd'hui, plus de 40% des attaques de l'État islamique, en tout cas de ce qui reste de l'État islamique, concernent le continent africain, avec un coût estimé à plus de 170 milliards de dollars sur les 10 dernières années. C'est dire qu'il y a un enjeu tout particulier justement pour le continent africain. Et de ce point de vue-là, la présence évidemment américaine sur place est la marque aussi de l'importance que les États-Unis continuent à accorder à ce combat, même si Anthony Blinken a dû se faire représenter par Victor Nuland, puisqu'il avait été testé positif au Covid. Mais en tout cas, incontestablement, c'est la réussite et aussi, d'une certaine manière, la reconnaissance du rôle joué par le Maroc comme chef de file justement de cette dynamique anti-Daesh sur le continent africain.
Vous évoquez ce qui reste de l'État islamique. Comment évolue la présence de ce groupe terroriste aujourd'hui ?
Il faut rappeler que le groupe, effectivement, a connu un certain nombre de soubresauts, notamment parce que ses chefs ont été éliminés successivement. D'abord Abou Bakr al-Baghdadi et puis son successeur, Abu Ibrahim el-Kourachi en février 2022. Il a été tué dans le nord de la Syrie, à proximité de la frontière turc. Il a été remplacé par un certain Abu Hassan al-Hashimi al-Kourachi depuis mars 2022, et il y a l'idée de relancer en fait une dynamique qui avait été cassée d'une certaine manière avec l'effondrement de l'entité, le califat autoproclamé et territorialisé sur la Syrie et l'Irak. Donc il y a un certain nombre de succursales qui se sont développées au niveau planétaire, puisqu'il y a une logique de provincialisation, wilayat, qui a été prônée par l'ancien calife autoproclamé Abou Bakr el-Baghdadi. Alors, avec des réussites inégales selon les endroits, notamment il y a des grèves qui n'ont pas prise, par exemple au Yémen, parce qu'il y a la concurrence de ACPA, Al-Qaïda au Yémen, qui demeure très forte, mais dans d'autres régions, et notamment en Afrique, il y a effectivement le développement de succursales qui ont fait allégeance au nouveau calife autoproclamé, et notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique orientale, où l'activité est de plus en plus marquée. On l'a vu ces derniers mois, justement, avec des combats très importants au Mozambique, avec des menaces sur des projets gaziers, notamment dans la province Cabo Delgado.
Comment ces membres sont-ils recrutés ?
D'une certaine manière, il y a des phénomènes d'agrégation, avec des fusions qui sont opérées, puisque, par exemple, l'État islamique du Grand Sahara a été intégré à l'État islamique de la province de l'Afrique occidentale, en mars 2019, même s'il peut se prévaloir de la possibilité d'une vilayat à part entière, c'est-à-dire d'une province en tant que telle. Mais c'est surtout le fait qu'il y a une succession de mouvements, finalement, à caractère islamo-djihadiste, qui font allégeance, soit évidemment Al-Qaïda, qui est l'organisation historiquement première, soit aujourd'hui, assez régulièrement, à l'État islamique, dans sa matrice historique, et donc le principe de la baïa, l'allégeance, et là pour marquer, on va dire, le diffusionnisme de cette organisation qui a connu des fêtes militaires, évidemment, dans la zone de la Syrie et de l'Irak.
Vous évoquez la matrice historique du groupe État islamique. Comment est né ce groupe ? Pouvez-vous nous le rappeler ?
Il est né, d'une certaine manière, comme un produit, un sous-produit de la mouvance islamo-djihadiste qui a bouleversé la Syrie et l'Irak. Puisque sur les ruines notamment de ce qu'avait été Al-Qaïda en Mésopotamie, et il s'est imposé progressivement, d'abord effectivement en Irak, avec la proclamation en 2014 pour la première fois d'une ambition territoriale, avec un califat autoproclamé par Abou Bakr el-Baghdadi, et avec une extension qui a bénéficié du chaos qui prévalait dans la région, et notamment une extension sur la zone syrienne à la faveur de la guerre civile en Syrie, ce qui lui a permis de se constituer une emprise territoriale marquée et qui a donné lieu justement à une réponse internationale, en l'occurrence la coalition justement anti-Daesh menée par les Américains à partir de 2014, celle-là même qui a fait l'objet justement de la réunion au Maroc, pour marquer le fait que c'est un combat sur la longue durée et que ce combat ne s'est pas achevé avec la destruction, on va dire, du califat territorialisé tel qu'il s'était imposé à partir de 2014 et dissous à partir de 2017.
Quelle est l'ambition de ce groupe, son objectif fondamental ?
Son objectif, on le retrouve d'ailleurs dans l'activisme qu'il mène dans la zone AFPAC, notamment en Afghanistan, à l'encontre des talibans, qui est pourtant un mouvement islamiste, mais nationalisé. C'est l'idée d'un djihad globalisé, avec des succursales, une provincialisation au niveau planétaire, et de manière opportuniste d'ailleurs, en utilisant des situations locales qui sont très variées, mais on le voit notamment en Asie du Sud, avec des attaques au Sri Lanka ou au Bangladesh, puisqu'il y a la tentative d'implantation justement en Asie du Sud, comme en Afrique orientale. Donc il y a effectivement un projet globalisé, transnational, djihadiste transnational, qui rejoint pour partie les ambitions de ce qu'avait été Al-Qaïda, même si les deux organisations sont assez largement en concurrence sur différents théâtres d'opération.
David Rigouleros, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, il répondait à François-Xavier de Calonne. En Algérie, la condamnation à mort d'un ancien responsable militaire. Il s'agit de l'adjudant-chef Guermit Bounouira. Il était poursuivi pour divulgation d'informations confidentielles touchant aux intérêts de l'armée et de l'État. Aux États-Unis, Joe Biden dénonce la haine qui demeure une tache sur l'âme de l'Amérique après l'attaque meurtrière de ce week-end. À Buffalo, un homme a tué 10 personnes et fait 3 blessés, parmi lesquels 11 Afro-Américains. Le FBI a ouvert une enquête pour crime raciste. La 5e journée internationale du vivre ensemble en paix a lieu ce lundi. À cette occasion, les scouts musulmans de France seront à la Grande Mosquée de Paris pour la projection du film « Nous tous ». Ce sera tout à l'heure à 18h. Entretien avec le président des scouts musulmans de France, Abdelhak Sali.
La journée du 16 mai prochain, c'est la journée internationale du vivre ensemble en paix. Elle a été adoptée le 8 décembre par les Nations Unies, hein, le 8 décembre 2017. Donc c'est la 5e édition cette année. Elle a été initiée par, donc c'est une fierté aussi pour nous, parce qu'elle a été initiée par le cher Bentounès, qui est le fondateur des Scouts Musulmans de France. Et donc cette journée, elle symbolise quelque part l'âme même du mouvement scout, qui est de vivre ensemble dans la paix. Parce qu'on vit ensemble, mais comment allons-nous vivre ensemble? Nous, on souhaite la vivre dans la paix. Et tous les projets qui sont liés au scoutisme, en tout cas, et j'espère qu'ils devraient l'être dans le monde entier, eh ben, c'est sur cette notion du vivre ensemble. Comment on vit avec les autres? Comment on vit l'altérité? Il faut qu'elle soit dans la paix, mais la paix avec soi-même, la paix avec les autres, la paix avec son environnement, la paix avec les animaux, avec tout un chacun, la paix dans sa famille, etc. Pouvoir grandir dans cette paix et pouvoir construire l'avenir, en fait, dans la paix. Construire, mais ça peut être, quand on parle de paix, on parle aussi d'architecture, on parle d'écologie, on parle de... C'est une paix qui est beaucoup plus générale, en fait, que juste une paix qui serait symbolique de non-conflit, en fait.
Et c'est pourquoi vous avez choisi, en partenariat avec la Grande Mosquée de Paris, d'organiser la projection du film « Nous tous ». Ce sera suivi d'un échange autour du vivre ensemble. Le film « Nous tous » qui retrace le parcours de différents citoyens et citoyennes issus de plusieurs continents.
Ce film « Nous tous » en fait va nous servir de support à un échange autour de ce vivre ensemble en paix. On a tout simplement demandé à monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris s'il était partant pour diffuser ce film, et il a accepté tout de suite, parce que c'est aussi il est parti dans une volonté aussi de ce message du vivre ensemble en paix. Et donc c'est tout naturellement qu'on a décidé ensemble de diffuser ce film. Alors ce film, il faut savoir qu'il n'y a pas que les Scouts Musulmans de France qui vont le diffuser, hein. Ce film, on a fait la connaissance du réalisateur, qui est Pierre Pirard, qui est belge, et qui a décidé, lui, d'aller faire le tour du monde et découvrir, en fait, des histoires inspirantes, et c'est ce que raconte ce film. Et donc, nous, à travers ce film, on a déjà 4 projections à travers la France, en tout cas au sein des Scouts Musulmans de France, mais dans le monde entier, c'est plus de 52 pays, autour de 420 partenaires, pas uniquement des Scouts Musulmans de France, mais c'est des partenaires de cette journée internationale du vivre ensemble en paix, dont vous trouverez toutes les informations sur le site du 16 mai, donc 16mai16mai.org, donc le 16mai.org, qui ont décidé de diffuser ce film. Et nous, on diffusera ce film à la Grande Mosquée de Paris le 16 mai à partir de 18h. Bien sûr, il faut s'inscrire, hein, vous trouverez toutes les informations sur notre site scoutmusulman.fr. Pour s'inscrire, on a 4 projections, donc la Grande Mosquée de Paris, mais aussi à Orléans, à Toulouse, à Châlons-en-Champagne. On souhaitait le faire aussi dans d'autres villes, bon, on n'a pas forcément eu la possibilité, mais en tout cas, on va le diffuser aussi sur nos réseaux sociaux. Donc, on voulait absolument diffuser ce film parce qu'il raconte des histoires inspirantes, en fait. Des personnes qui ont combattu l'un contre l'autre et qui ont décidé par la suite de s'unir pour reconstruire finalement l'avenir. Parce que pour nous, en tout cas, comme disait Saint-Exupéry, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, en fait, ou de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. Donc, comment allons-nous rendre la terre à nos enfants? Comment allons-nous laisser cette terre à nos enfants? Donc, on souhaite, nous en tout cas au sein des Scouts Musulmans de France, la laisser de façon paisible, encore une fois, mais autour de l'environnement, autour de tout, des relations humaines, autour de tout ça.
Et vous l'écrivez, hein, face aux crises que traversent la société française et le monde plus globalement, nous sommes convaincus que c'est par le dialogue, la médiation et le vivre ensemble, en paix, que l'humanité pourra relever le défi de la réconciliation de la famille humaine.
Oui, tout à fait. C'est par ce dialogue, cette rencontre, cet échange. Le Coran ne dit-il pas, je vous écris en communauté, afin que vous vous entreconnaissiez. En fait, c'est cette connaissance des uns et des autres qui fait qu'on va aller vers cette paix durable. En fait. Nous, on est persuadés, par exemple, moi je le vois quand on fait des activités ensemble avec les enfants de plusieurs mouvements de scoutisme en tout cas, et d'autres enfants, les enfants se posent des questions, échangent les uns avec les autres, et ça permet quelque part de briser, ou en tout cas d'effacer, certains fantasmes autour de la religion, autour de l'origine, autour de tout ça. Et les gens se rendent compte que finalement, ce ne sont que des humains, tout simplement. Des enfants, a priori, enfin en tout cas, des enfants d'abord, ensuite une humanité. Et c'est comme ça qu'on va, on l'espère en tout cas, réconcilier cette famille humaine. J'aimerais aussi faire un message, parce que autour de cette journée internationale, beaucoup d'initiatives sont prises.
Et vous faites la promotion, bien entendu, du dialogue interreligieux au sein des scouts musulmans de France.
C'est intrinsèque au mouvement de scoutisme, en fait, l'interreligieux, parce que le mouvement scout, lorsqu'il s'est créé, Baden-Powell a créé le mouvement scout en 1907, il a parlé de trois principes, en fait. Quand vous faites le signe scout, vous avez le pouce qui est sur l'auriculaire, et vous avez l'index, le majeur et l'annulaire qui sont levés. Et vous avez ce signe-là, les trois doigts levés, pardon, signifient le devoir envers soi, le devoir envers les autres et le devoir envers Dieu. Alors certains parlent de quelque chose qui nous dépasse lorsqu'on ne veut pas signifier Dieu. Bon, c'est des mots, tout ça, bien sûr, mais il y a ce devoir de spiritualité. Et donc, le scout, pour lui, le dialogue interreligieux est partie entière du travail, en tout cas interspirituel ou interconvictionnel, si vous voulez. Et ce dialogue passe par la rencontre, aller rencontrer les autres dans leur lieu de culte éventuellement. On a déjà participé à des échanges, des jeunes qui ont été visiter des églises, mais aussi des mosquées, des temples, des synagogues, et ont pu découvrir finalement que dans la maison de Dieu de l'autre, en fait, c'est la maison de Dieu de tout un chacun, tout simplement.
Le président des scouts musulmans de France, Abdelhak Sali, il répondait à François-Xavier de Calonne. Enfin, le masque n'est plus obligatoire depuis ce matin dans les transports publics en France. Une mesure similaire est entrée en vigueur dans les avions et les aéroports de toute l'Union européenne. Les invités de Pluriel ce lundi à 19h et 23h, Aminata Niakate, candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans la 13e circonscription de Paris, à 19h15 et 23h15, Lotfi Ben Khalifa, candidat socialiste aux élections législatives dans la 14e circonscription du Rhône. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.